Vous écoutez RMC. RMC.
Il y a des joueurs qui sont complètement hors sol, avec des familles qui les gonflent toute la journée pour leur dire que c'est les plus beaux et que c'est les meilleurs.
Moi j'aime bien Cendrillon et tout, elle a retrouvé son carrosse, ok c'est très bien, mais à un moment donné...
Sa carrosse, sa chaussure.
Plus ça avance, plus ils sont en train de rentrer dans le rang, les Raymond. Dans le rang.
20h-22h, Génération After.
Karine Galli. Bonjour à tous, vous êtes sur RMC, on est ensemble pendant deux heures. Au programme, un invité exceptionnel, c'est Hudson Edouard, le meilleur buteur du RC Lens cette saison, buteur notamment lors de la finale de la Coupe de France. Il sera avec nous, on va parler de ce renouveau à Lens et aussi de sa carrière, notamment à Crystal Palace où il était aux côtés d'internationaux français qui vont jouer la Coupe du Monde. On parlera également de Guardiola, vous le savez, c'était sa dernière cet après-midi. Il y a eu beaucoup de larmes. On parlera également de Rouli qui a parlé sur ses réseaux sociaux, le gardien marseillais qui a eu une sortie un peu lunaire selon Elton Mokolo et puis toute l'actualité évidemment de la journée. Ils sont là en pleine forme, je l'espère. Jennifer Mandelevitch, Walid Acharchour et Elton Mokolo. Salut tout le monde.
Salut à tous. Salut Karine.
Tout va bien.
Salut. Écoute, ça va. Même si on se bat contre un ennemi invisible mais puissant à la fois, le pollen.
Alors tu te bats, parce que pas tout le monde se bat je crois contre le pollen.
Je pense que je suis pas le seul.
Ah, tu es en difficulté avec le pollen.
Ouais, je suis en difficulté, ouais. Là c'est un combat qui s'intensifie là. Là c'est de la première ligue là.
T'es en train de le perdre
ouais.
ou
Ouais, on va dire que je suis pas favori.
Tout le monde perd son combat contre le pollen.
Ah ouais, là je l'avais pas vu venir. Mais là ça va dans le studio, il n'y a pas de pollen, tout va bien.
Pour l'instant ça va.
Magnifique. Il est de retour de vacances. C'est le boss de l'After Foot, Gilbert Bribois. Bonsoir.
Salut tout le monde.
Le pollen, tout va bien pour toi?
Ça va, le pollen, moi, j'ai gagné le combat.
Magnifique. Quel est le programme de l'After Foot à partir de 22h?
Kevin Diaz sera là, David Glusman, Maxime Chalon. On va parler de Pierre Sage, puisque c'est l'homme du week-end. Il sera dans l'After demain d'ailleurs. Peut-être que la réussite de Pierre Sage va changer un peu la donne concernant les entraîneurs français. Il va peut-être créer un nouveau modèle. On va en parler tout à l'heure. On veut revenir également sur. À froid sur la saison de l'OM et la gestion des médias à l'OM, l'actu du jour bien sûr, et puis grosse page internationale avec la dernière journée anglaise, la dernière journée italienne également ce soir. Julien Laurence, Daniel et Manoussia seront là donc pour 2 heures d'after tout à l'heure de 22h à minuit.
Magnifique, merci Gilbert. Génération After, c'est parti.
Et attendez hein.
Oui,
Roland Garros Formule 1, c'est du sérieux ce soir.
Ah bah oui, à 22h, tu auras effectivement Jean-Luc Roy pour le Djokovic Grand Prix du Canada.
Et Djokovic Mpechi.
Oui, alors ça, a priori,
c'est la légende
pourrait...
Jean-Luc Roy, excuse-moi. La légende
Grand Prix du Canada, s'il te plaît.
4000 Grand Prix de F1 au compteur.
Parce que Djoko, j'ai peur que ça dure assez peu de temps, potentiellement.
À suivre.
À suivre. Eric Salio et Julien Beneteau, évidemment, en direct de Roland-Garros, vont nous faire suivre ce match entre Djoko et le Français, bien évidemment. Mais si on va revenir au foot pour l'instant, et au problème de pollen, évidemment, Dalton Mokolo, je ne l'avais pas vu venir, celle-là, c'est fabuleux.
Là, c'est l'art de surprendre, Karine, à un moment donné. On l'a pas.
Magnifique. On va accueillir notre invité exceptionnel ce soir. Je vous le disais, c'est Hudson Edouard, le Lensois, qui a rejoint donc le RC Lens l'été dernier. Une saison réussie, une saison pleine, on va en parler avec lui. 12 buts en 29 matchs de Ligue 1, 14 buts toutes compétitions confondues, et notamment ce but, évidemment, c'était ce week-end en finale de Coupe de France avec un succès 3 buts à 1. Bonsoir Hudson, merci d'être avec nous sur RMC.
Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir de vous voir.
Bonsoir.
Hudson, comment ça va? Parce qu'on sait que le week-end, a priori, a été assez long. La fête a duré plus de 24 heures. Vous êtes rentré à 4 heures du mat au Stade Bollard pour fêter avec les supporters qui étaient présents à Lens. On a vu la parade sur le bus. On a vu évidemment la mairie qui vous a reçu. Est-ce que vous vous êtes remis de toutes ces émotions? Racontez-nous ces derniers jours qui ont été évidemment incroyables pour le peuple lensois et pour l'équipe, j'imagine.
Franchement, les 72 dernières heures ont été incroyables, vraiment incroyables. Bon, aujourd'hui, je vous avoue que je suis très fatigué, très très fatigué, mais c'est de la bonne chose.
Alors Hudson, on n'entend absolument rien, je suis désolé, il y a un problème de connexion, on va essayer de se reconnecter avec la régie parce que franchement c'est pas possible, on n'entend pas, je sais pas où vous êtes, mais on va essayer d'arranger ça. Mais si on va parler de Hudson Edouard dans quelques instants, en tout cas ce qui est sûr, on va en parler avec lui, c'est que ça a été un renouveau pour nous, on en avait parlé, et c'était des joueurs qui étaient à la relance, c'était des paris de la part de Jean-Louis Leca notamment. Hudson Edouard, ça a été un pari gagnant?
Oui, il fait partie des revanchards de cette saison qui ont construit le succès du RC Lens. On a parlé
parlé de Florent Thauvin, on a parlé bien évidemment de Malangsar qui était déjà dans l'effectif mais qui a changé de dimension cette saison au contact de Pierre Sage. Et c'est vrai qu'Haute-Saône-Édouard, il y avait pas mal de rumeurs sur son transfert, sur un retour en Ligue 1. On a parlé de Nice dans un premier temps et finalement c'est Lens qui l'enrôle. On l'avait un peu perdu de vue en Angleterre parce qu'il avait quand même une cote intéressante, mais lui aussi il avait été irrégulier. On se demandait ce que ça allait donner en Ligue 1 et forcé de constater bien évidemment que ça a été une superbe recrue pour Lens.
Et on l'a retrouvé, j'espère que la connexion sera meilleure. Hudson Edouard, donc notre invité exceptionnel, le joueur du RC Lens, meilleur buteur du club cette saison. Hudson, on parlait effectivement de ce renouveau parce que vous sortiez de deux saisons marquées par des blessures, un temps de jeu réduit, et vous avez accepté de revenir en Ligue 1 avec une baisse de salaire considérable. Finalement, c'était le bon choix.
Voilà, c'était le bon choix, surtout avec la saison qu'on a réalisée. Et le match qu'on a fait vendredi soir, voilà, il a marqué l'histoire du club. Et pour ce genre de choses que j'ai accepté de venir dans ce club.
On rappelle que vous aviez passé 9 ans au Royaume-Uni. Il y avait eu évidemment Crystal Palace, on en parlera, le Celtic, etc. Hudson, qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir au RC Lens? Comment Jean-Louis Leca a trouvé les bons mots? Ou peut-être pas que Jean-Louis Leca, hein, peut-être Pierre Sage aussi, parce que vous êtes arrivé fin août, donc le championnat avait déjà commencé. Qui a trouvé les bons mots pour vous convaincre de revenir à Lens?
Je suis très franche avec Jean-Louis Leca. Dès les premières appels, j'étais déjà convaincu du projet. Ensuite, j'ai pu échanger avec le coach. Et j'ai senti que voilà, c'était un club très fort dans sa culture. J'ai senti aussi une équipe vraiment soudée. Et voilà, après les premières discussions, ça m'a permis de voir le projet, de prendre ce projet. Et ça s'est passé naturellement.
Elton Mokolo a une question pour vous.
Salut Hudson, je voulais revenir davantage sur ta saison à titre individuel. Est-ce que notamment dans le système bien défini particulier de Pierre Sage, avec notamment ces deux attaquants, tu t'es senti à l'aise très rapidement au cours de cette saison? Et à quel point tu t'es davantage senti buteur?
Non, attaquant, forcément, c'est moi la dernière pièce de l'équipe. Et dès le premier jour où je suis arrivé, j'ai eu une discussion avec le coach. Voilà, j'ai eu aussi Florian Thauvin qui m'a très bien accueilli, qui m'a enlevé toute la pression qu'il a mise sur ses épaules, qui m'a dit que moi je suis là pour marquer des buts et qu'il a dit faire les passes décisives. Et avec les joueurs autour de moi comme Vincent Saïd, Antoine Sima, Agrafisson, qui m'ont fait beaucoup de passes décisives, ça a facilité les choses.
Hudson, je suis vraiment désolé, il y a un vrai problème de connexion. Je ne sais pas où vous êtes, mais on vous entend très très mal sur RMC. On va essayer de se reconnecter ou peut-être d'appeler sur un téléphone fixe si ça existe encore, je ne sais pas. On va essayer en régie parce que c'est très compliqué.
On va essayer d'appeler sur un autre téléphone.
On va essayer, on va voir ça en régie parce que malheureusement, on est ravis de vous avoir comme invité, mais on n'entend pas très bien. Jennifer, c'est vrai que l'histoire d'Hudson Edouard ou l'histoire de Florian Thauvin ou encore de Saint-Maximin qui lui est arrivé cet hiver, ça va peut-être définitivement convaincre des joueurs de revenir en Ligue 1, de revenir à Lens pour se relancer, parce que là, quasiment tous les paris ont été gagnants. Malangsar, bon, ça a mis un petit peu plus de temps, mais au final, c'était un pari gagnant. C'est aussi ça, le bon travail fait par le RC Lens.
Alors, ça va les convaincre de revenir à Lens, peut-être. Dans d'autres clubs de Ligue 1, on a vu qu'il y avait eu des paris un petit peu moins, réussis. Mais je pense que, justement, c'est le vrai travail du recrutement à Lens, parce qu'ils ont pensé les profils pour qu'ils soient complémentaires, parce que c'était des gens qui avaient des valeurs communes avec le club. C'est vraiment le travail de Jean-Louis Leca qu'il faut saluer, parce que c'est quand on voyait peut-être en début de mercato des noms sortir un petit peu partout, il y en a peu qui auraient donné à la fin qui auraient parié sur une telle saison du RC Lens. Donc oui, effectivement, je pense que ça a été un gros travail de leur part. Il a fallu aussi les convaincre, parce qu'on connaît les moyens du RC Lens, et financièrement c'est pas non plus les plus armés, c'est pas eux qui donnent les salaires les plus élevés.
Il a consenti à une baisse de salaire de plus de 50% par rapport à ce qui touchait à l'étranger, par
exemple, Hudson Edouard, parce qu'il était sous contrat avec Crystal Palace.
C'est pas étonnant. Après, bon, on a aussi des mécanismes fiscaux qui permettent à des joueurs, quand ils sont à l'étranger de nombreuses années, de bénéficier du régime de l'impatriation, ce qui fait que sur leur salaire net, ils ont quand même une compensation. Mais disons que je pense que c'est le projet qu'on leur a vendu, avec effectivement un public exceptionnel, un stade et le projet du RC Lens. Il fallait être intelligent pour y croire, et ils ont bien fait de le faire.
On retente. Nouvelle connexion, nouveau téléphone normalement avec Hudson Edouard, qui est notre invité exceptionnel sur RMC le Lensois. Hudson, est-ce que c'est mieux? Est-ce que la connexion est meilleure là? Est-ce qu'on va mieux vous entendre?
Bah, j'espère, en tout cas, de mon côté.
Ah, c'est bien mieux. Ça y est, on y est arrivé.
C'était le téléphone, le problème.
Enfin.
La troisième tentative a été la bonne. Hudson, je le disais, je rappelais vos statistiques. 12 buts en 29 matchs de Ligue 1, 14 buts toutes compétitions confondues, dont 2 en Coupe de France, et notamment ce but, c'était vendredi soir en finale face à Nice. C'est votre plus belle carrière, selon vous, même si vous aviez déjà marqué plus de buts dans le passé, mais est-ce que pour vous, c'est votre saison la plus aboutie?
Absolument, pour moi, c'est la saison la plus aboutie, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Parce que, voilà, je sors de deux saisons très compliquées, spécialement l'année dernière, et revenir sur ma première saison sur le devant de la scène européenne, en marquant 12 buts et en gagnant la Coupe de France, je pouvais pas rêver mieux.
Hudson, il y a un déclic dans la saison. Moi, c'est une conférence de presse d'avant-match. Je crois même que c'est un peu avant le match contre Marseille, où vous gagnez 2-1 à Bollard. Où il y a Florent Thauvin qui envoie en conférence de presse en disant préparez-vous à Hudson Edouard, parce qu'à ce moment-là il y avait un peu de scepticisme par rapport à tes performances, en disant que à l'entraînement t'étais incroyable et que t'allais faire une superbe saison, et derrière ça coïncide à ta saison qui se lance clairement dans ce match-là. Tu l'avais pris comment cette conférence de presse? Ça t'avait donné beaucoup de confiance de voir le leader d'attaque t'adouber de cette manière?
Bien sûr, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Quand il y a un joueur comme Flo qui va devant la presse pour me défendre, pour m'encourager, ça me donne forcément envie de me dépasser. Ça m'a aussi libéré d'un poids, du poids du buteur de l'équipe. Et après ce match-là, ma saison a été lancée et on a fini cette saison sur un trophée.
Parce que tu mets la Panenka sur Rouli, hein, où il te laisse le penalty déjà.
Ouais, c'est ça. Bah, d'abord, il me défend en conférence de presse. Il parle de moi et sur le match d'après, dès qu'il y a eu le penalty, il m'a dit tiens, je te le laisse, c'est pour toi, pour te mettre en confiance. Et après ça, ma saison est poursuivie.
T'avais un véritable enjeu de revenir en France, parce que t'as eu un passage à Toulouse après ta formation au Paris Saint-Germain, mais on t'a pas vu éclore véritablement, parce que c'est au Celtic que tu pètes et derrière en Angleterre. T'étais quand même globalement méconnu en Ligue 1 ou en France pour le grand public. Et là c'est vraiment la saison référence qui te fait véritablement péter. C'est différent ou pas autour de toi? Est-ce que l'impact de cette saison-là a une vraie différence par rapport à ce que tu faisais en Première Ligue?
Bien sûr que c'est différent. J'ai joué, comme vous l'avez dit, 9 ans à l'étranger. Je ne suis pas forcément connu du grand public en France. Du coup, j'arrivais aussi à Lens avec cette petite pression. Et ça me tenait vraiment à cœur de montrer le joueur que j'étais. Je pense que c'est chose faite et j'en suis très content.
Hudson Edouard, le meilleur buteur du RC Lens cette saison, est l'invité d'RMC ce soir dans Génération After. Elton.
Hudson, visiblement, t'aimes bien marquer sur des finales de compétition, parce que moi, la première fois que je t'ai vu, ça va pas nous rajeunir, c'était en 2015 sur une finale du 17 contre l'Allemagne. C'était quoi ton état d'esprit avant cette finale? Ouais, c'est vrai, ça commence à remonter.
Ouais, c'est de beaux souvenirs.
Ouais, bah ouais, vous avez été extraordinaire, vous avez une génération de dingue. Mais pour revenir sur le caractère de finale, c'était quoi ton état d'esprit avant justement cette finale contre Nice? Et notamment, bah, tu étais particulièrement attendu.
J'étais très détendu avant la finale, comme on a mon habitude. Voilà, j'ai essayé de jouer mon rôle dans le vestiaire, mon rôle de leader. Comme je suis l'un de ceux qui ont disputé le plus de finales, j'ai essayé de parler à tout le monde, de rassurer tout le monde. Et Allô.
Oui, c'est bon.
Non, j'ai dit que voilà, je joue mon rôle dans le vestiaire. Ça s'est beaucoup joué avant le match parce que on avait beaucoup de joueurs qui avaient la pression. Pour eux, c'était la première finale. On avait aussi la pression de cette Coupe de France parce que le club de la région l'a remporté. Du coup, on avait cette petite pression. Mais voilà, une fois rentré sur le terrain, on a réussi à faire abstraction. On a eu la chance de marquer assez tôt dans le match. Et puis, voilà, ça a suivi et ça a amené à la victoire.
Tu savais, Hudson, que tu allais faire cette saison-là?
Mais je mentirais si je dirais oui. Voilà, je ne le savais pas, mais voilà, je savais que j'allais marquer des buts. Je savais que j'avais bien joué, mais de là à terminer deuxième de Ligue 1 et gagner la Coupe de France, je ne m'attendais pas du tout.
C'est quoi la clé? C'est quoi la clé pour toi cette saison du succès de Lens?
La clé, déjà, c'est un effectif complet, un groupe très soudé. Voilà, dès que je suis arrivé au RC Lens, je suis arrivé dans une famille. J'ai senti que tout le monde était là pour l'autre. Tout le monde s'est tiré vers le haut. On a aussi la chance d'avoir un grand entraîneur qui est Pierre Sage et tout son staff. Et avec le travail fourni au quotidien, on a réussi à obtenir des résultats. Et petit à petit, on a commencé à rêver plus grand jusqu'à arriver de la Coupe de France. Et on a réussi à la gagner.
Jennifer.
Oui, Hudson, après plusieurs années à l'étranger, est-ce que tu as été surpris du niveau de la Ligue 1 en revenant?
Surpris du niveau, non, parce que en tant que Français, je regarde beaucoup la Ligue 1. J'ai beaucoup d'amis qui ont joué en Ligue 1. Du coup, j'ai l'habitude de la suivre. Par contre, c'est vrai qu'en tant que joueur, je m'attendais pas à ça. C'est bien, bien plus compliqué que ce que l'on dit ou ce que l'on entend de l'extérieur. Mais je n'ai pas été surpris parce que je connais la qualité de notre championnat.
T'as un élément de comparaison entre ton premier passage en Ligue 1 et ton second passage avec le RC Lens?
Ouais, ça n'a rien à voir. Mon premier passage à Toulouse, j'étais un jeune joueur qui découvrait le monde professionnel. J'étais pas prêt mentalement ni physiquement à jouer en Ligue 1 à ce moment-là. Et aujourd'hui, à 27 ans, quand j'arrive au RC Lens, je suis un autre joueur, plus complet, plus mature et plus travailleur.
Mais l'aspect mental, Hudson, parce que nous, on en a parlé pendant le débrief du match en disant que vous avez été challengé par Nice sur la rencontre, mais que toi, Florian ou même Saint-Maximin, vous avez choisi les momentum de rencontre quand il le fallait pour leur faire très très mal, pour être efficace. Comment ça s'acquiert ça avec le temps? Parce qu'on dit souvent qu'il y a cette next gen, enfin les très très jeunes, les U23 qui arrivent, qui envoient leur football avec beaucoup d'insouciance, mais on sent que bah, vous, quand vous revenez en France, après l'expérience acquise en Première Ligue, bah, vous êtes beaucoup plus mature. C'est quoi? C'est le temps? C'est l'entourage? C'est se relever et de faire des erreurs qui fait que vous en arrivez là?
Je pense que c'est un peu tout. Dans une carrière, il y a des hauts, il y a des bas. Dans notre équipe, on a beaucoup de joueurs qui ont eu beaucoup de bas. Du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, avec les joueurs d'expérience qu'on a, on arrive à gérer ce genre de choses, on arrive à accompagner les jeunes. Et le fait d'avoir aussi évolué à l'étranger, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ça m'a permis de prendre la maturité plus rapidement.
C'est quoi les choses que tu as appris à l'étranger, Hudson?
Entre Celtic et Palace notamment.
Ou Leicester.
Notamment aussi.
C'est notre culture, c'est une toute autre culture. Le football est très différent là-bas. Voilà, là-bas, il y a beaucoup plus de physique, il y a beaucoup de discipline et c'est un autre football. Je trouve que c'est bien aussi de voir ce qui se fait ailleurs, de jouer un peu dans d'autres championnats et de revenir dans le championnat de France avec un meilleur bagage.
Tu parlais tout à l'heure de Pierre Sage. Parlons quand même de ce coach. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, toi? Qu'est-ce qu'il apporte à Lens? Pourquoi aujourd'hui il a ses résultats sur le côté management ou sur le côté tactique? Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus?
C'est un coach incroyable. Il vient d'être élu meilleur entraîneur de Ligue 1. c'est pas le gars, c'est pas pour rien. Voilà, il réussit à tirer les meilleurs de chaque joueur. Il réussit à faire en sorte à ce que chaque joueur soit performant. Comme par exemple au moment où on a eu la blessure de Joe Gradit, il n'a pas hésité à lancer un jeune, Ismaël Gagnon. Et aujourd'hui, c'est parti des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Donc, cette confiance qu'il donne, on est obligé de le redonner sur le terrain et il arrive à trouver cette chose chez chaque joueur. Donc, c'est un truc spécial que peu d'entraîneurs ont. Et c'est ça qui fait que c'est un entraîneur spécial.
Hudson Edouard est notre invité sur RMC. Hudson, Pierre Sage a confirmé qu'il serait l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Vous allez retrouver la Ligue des Champions avec le RC Lens. Vous l'avez déjà joué avec le Celtic. C'est avec une équipe ambitieuse que vous allez arriver. On a vu que Brest avait pu faire des très belles choses la saison dernière en allant jusqu'au barrage. Vous vous dites qu'avec ce que vous avez fait cette saison, avec cette équipe vraiment qui est soudée, vous pouvez également briller dans cette nouvelle formule ?
Bien sûr, bien sûr. On se donne pas de limites. Voilà, on a fait une très belle saison en terminant deuxième, en remportant la Coupe de France. Mais voilà, on sait que maintenant on a l'équipe et on a l'aspect mental pour faire des belles choses. Mais bon, c'est encore trop tôt pour penser à ça. Là, on va se reposer, profiter des vacances et revenir l'année prochaine avec des grandes ambitions.
Effectivement, c'est le temps des vacances. Juste, on va parler un petit peu du passé aussi, parce que on l'a dit, hein, vous aviez signé à Crystal Palace en 2021. Vous avez eu comme coéquipier des joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde, notamment en France. Il y a Olise, il y a également Mateta. Est-ce que vous êtes surpris ou est-ce que quand vous jouiez avec eux, vous disiez ils vont avoir un destin magnifique en bleu? Et est-ce que ça vous donne aussi des idées à titre personnel quand vous voyez qu'Olise et Mateta aujourd'hui vont jouer une première Coupe du Monde sous les ordres de Deschamps?
Pour Michael Olise, pas du tout surpris. Voilà, dès que je suis arrivé à Palace, c'était un des joueurs qui m'a fait les plus fortes impressions. Voilà, j'avais aucun doute sur le fait qu'il soit international dans un futur proche. Pour JP Mateta, c'est différent. Il a une histoire différente. Il est arrivé un peu plus sur le tard. C'était compliqué à ses débats à Crystal Palace. Mais voilà, on voyait qu'il avait les qualités pour. Et la grosse différence, c'est que JP, c'est un gros bosseur. Il a travaillé très, très dur. Il a eu beaucoup de réussite. Et aujourd'hui, de le voir en équipe de France, forcément, c'est un plaisir.
Hudson, justement pour revenir notamment sur ta saison lensoise, on a beaucoup parlé de tes qualités de buteur, mais aussi on a également vu en avant tes qualités de passeur, notamment dans cette attaque à deux. Tu peux revenir là-dessus?
Comment? J'ai pas entendu.
On a beaucoup mis en avant tes qualités de buteur, mais on a également vu tes qualités de passeur. Ça, avec le temps, c'est quelque chose que t'as acquéri notamment dans ta carrière?
Non, pas du tout. C'est quelque chose qui fait partie de ma palette de footballeur. Mmh. J'ai toujours été un bon buteur, mais j'ai toujours été bon dans le jeu. Et c'est une des raisons pour laquelle Persage me voulait dans son équipe, car il cherchait un attaquant capable de faire le lien entre les milieux et les autres attaquants. Et c'est ce que j'ai bien fait de cette saison.
Mais en fait, t'es un attaquant moderne, quoi. En fait, aujourd'hui, on le voit, tu peux gérer la profondeur, comme on l'a vu sur la finale ou sur plein de matchs cette saison. Tu peux être connecté avec le reste de ton équipe. T'es très bon de la tête. Tu peux armer dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, t'es un attaquant complet.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est un attaquant complet. Je pense que c'est pas mal de qualités que je mets au service du collectif. Et ça, je pense que c'est le plus important pour un attaquant.
Et pourquoi ça n'a pas pris en Angleterre, Hudson? C'est toi qui as mal fait les choses? Il s'est passé des problèmes avec les coachs? Le niveau était trop haut? Avec le recul, est-ce que tu as un mea culpa à faire? Est-ce que tu as appris de ces saisons-là? Comment? Explique-nous un petit peu, nous, vu de France, on n'a pas tout suivi.
Je dirais déjà que c'est un championnat totalement différent. Jouer avec Crystal Palace, qui joue le match toutes les années, et jouer avec le RC Lens qui joue le haut tableau pour un attaquant, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Parce que voilà, c'est beaucoup plus facile de performer avec une équipe qui presse haut, qui attaque, qui se crée des occasions, plutôt qu'avec une équipe qui défend. Mais voilà, aussi de mon côté personnel, je sais que j'ai pas tout bien fait. Peut-être qu'il y a eu des manquements à certains endroits. Et voilà, avec le recul, je peux pas encore dire ce qui n'a pas fonctionné, parce que voilà, je suis encore dans ma carrière, je suis encore en train de profiter de mon football. Et je ferai les comptes à la fin de ma carrière, mais pour le moment, je profite. Voilà, je suis revenu en France au RC Lens, j'ai réussi à faire une belle saison. Et maintenant, je pense qu'à partir de l'avant, on continue à travailler pour aller chercher des nouvelles choses.
T'aimes le football, Hudson?
Moi, j'adore le football. Je suis un passionné.
Et aujourd'hui, tu as 28 ans parce que tu dis que tu prendras le recul et tu es très très content de cette saison. Mais on en parle souvent avec Elton. Il y a beaucoup de joueurs qui approchent la trentaine et qui arrivent à avoir la plénitude de leur talent par rapport à la maturité.
Qui vieillissent bien.
Et qui vieillissent très très bien. On dit souvent que 28-32 ans, c'est la meilleure période pour un footballeur. Tu le ressens là actuellement et tu as encore faim, tu as la dalle, tu as envie de repartir. Tu te dis que c'est le bon virage là cette saison, c'est le bon virage pour repartir de plus belle?
Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est pour ça que j'ai accepté de revenir à RC Lens et de revenir en France. Parce que cette saison a été une année charnière pour moi, parce que je sors d'une saison très compliquée et je savais qu'il ne fallait pas que je me loupe si je voulais continuer à jouer longtemps. Donc je suis très content de la saison que j'ai faite. Voilà, j'ai encore faim, j'ai encore envie d'aller chercher les choses et je vais me donner tous les moyens pour aller le faire.
Bah on te le souhaite
effectivement.
Souhaite.
Dernière question, c'est celle d'un auditeur, d'un supporter du RC Lens qui est avec nous au 32-16 sur RMC. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous.
Salut Antoine.
Antoine, on te donne l'opportunité de poser une question à Hudson Edouard. Il t'écoute.
Salut Hudson. Tout d'abord, merci à tout le groupe, merci à Lens, merci au staff, aux joueurs, bref, à tout le club pour les émotions qu'on a vécues vendredi soir. J'ai pas eu la chance d'aller au Stade de France, j'étais à Bollard, mais c'était incroyable comme soirée. Tout d'abord, je voulais juste, deux questions rapides. Quel a été le match déclic dans ce parcours de Coupe de France qui vous a ensuite permis à tout le groupe de se dire que vous pouviez aller au bout? Et après, deuxième chose, quels peuvent être maintenant les objectifs pour l'année prochaine?
Tout d'abord, pour répondre à ta première question, le vrai déclic, ça a été le match face à Lyon.
Mmh.
Parce que, voilà, on menait ce match 2-0. Ils ont réussi à égaliser à la dernière seconde. Et on a remporté ce match au Pilacci. Et à partir de ce moment-là, on s'est senti invincible et on savait qu'on allait gagner la Coupe.
Ok.
Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous et merci, un grand merci à Hudson et Edouard d'avoir été notre invité. Donc là, ça y est, c'est les vacances?
Ouais, ça y est, c'est les vacances.
Il faut en profiter un peu,
il faut en profiter. Ouais, il faut relâcher un peu, couper pour revenir l'année prochaine avec
de l'ambition.
Avec l'esprit reposé.
Eh ben, on vous souhaite de très très bonnes vacances et évidemment une très belle saison la saison
peut-être
prochaine.
Peut-être que dans deux ans à la même époque, il n'y aura pas de vacances pour Hudson Edouard.
Ça sera l'Euro peut-être.
On lui souhaite.
Et j'aimerais prendre 20 secondes aussi voilà, pour faire un grand merci à tous les supporters lensois pour leur soutien tout au long de la saison. Un grand merci au coach Persage, un grand merci à Jean-Louis, Ben, Bilal, toutes les personnes du staff, toutes les personnes qui nous ont accompagnés cette saison pour réussir à faire ce qu'on a fait. Un grand merci à vous et surtout un grand merci au peuple lensois.
Merci beaucoup Hudson. Hudson Edouard qui était l'invité d'RMC ce soir. On sent qu'il y a une osmose totale au sein du club, au niveau des joueurs, au niveau de la direction, au niveau des supporters. Bravo encore à Hudson Edouard et à tout le RC Lens. Deuxième place de championnat et la première Coupe de France de l'histoire des 100 et or. Dans quelques instants, évidemment, Génération After continue. On va parler de la Première Ligue et notamment de Guardiola qui a fait ses adieux à Manchester City après 10 ans passés au club. Et puis, on se posera aussi cette question. Quels sont les grands joueurs qui vous ont procurer absolument aucune émotion, parce que c'est vrai que cet après-midi, on a vu des gens pleurer de partout, parce que c'est évidemment la période des adieux. Le débat va être extrêmement chaud. J'ai déjà deux noms, deux joueurs que j'adore et je suis scandalisé. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After. Karine Galli.
20h32, vous êtes sur RMC, en direct du studio Roland Courbis. On est ensemble avec Walid Acherchou, avec Jennifer Mandelevitch et Elton Mokolo jusqu'à 22h, puis juste après l'afterfoot, le retour de Gilbert Bribois. Et si vous voulez réécouter l'entretien avec Hudson Edouard, vous le retrouvez sur rmcsport.fr, également en podcast. On va tout de suite prendre la direction de Roland Garros où on va retrouver Eric Salio. Bonsoir Eric.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Eric, est-ce que tu as des bonnes nouvelles à m'annoncer, question français ou pas?
Bah écoute, 19h58, immense soulagement. Quentin Alice a remporté son premier tour face à l'Italien Bellucci. C'était donc la première victoire française de la journée. On a respiré un bon coup parce qu'on était... On n'était pas tranquille, on avait peur du Fanny, hein, c'est ça?
C'est ça.
Fanny paye ton pot, là. Ouais, non, heureusement, Quentin Alice a été très bon. Et ce qui est bien, Karine, c'est qu'on a l'assurance d'avoir au moins un Français au troisième tour, puisque c'est le tableau qui veut ça. Lors du deuxième tour, il affrontera forcément un bleu, le vainqueur du match qui se déroulera demain entre Hugo Humbert et Adrian Manarino. Donc, un grand cocorico, parce que on a eu très peur. Il y a d'autres Français qui sont sur les cours. Pierre Hugerbert a débuté son match sur le court Simone Mathieu contre l'Italien Sonego, c'est 3-3. Valentin Royer mène avec un break d'avance contre le Bolivien Delienne. Et puis, c'est parti sur le central à l'instant, enfin il y a quelques minutes, 2 minutes exactement. Novak Djokovic opposé à Giovanni Pecci Péricard, l'immense serveur lyonnais. Donc il va tenter de créer l'espoir face aux Serbes. 1-0 pour Novak Djokovic.
Ça peut être rapide pour Djoko, j'imagine.
Pas du tout. Ah, je ne connais pas Giovanni Pecci Péricard.
Écoute, j'espère que tu vas me faire mentir. Écoute, une victoire en 5-7 du français.
Djoko, il n'a pas beaucoup de refs sur terre battue cette année. Hein. Il a perdu à Rome, ça.
C'est ça,
oui. Donc Pecci peut lui prendre un 7 ou essayer de le. C'est pas le grand Djoko. Voilà. Djoko va rentrer en
France.
Tu ne
mettrais pas 5 euros sur la victoire de Giovanni, non?
Hein?
Tu ne mettrais pas 5 euros sur la victoire
de Giovanni? Non, non plus. Mais je dis juste qu'il peut avoir un match. Il peut avoir un semblant de match avec un Djoko qui se rend.
Il va y avoir un match.
Oui, non, mais quand je dis un match, un match, c'est dire un match. C'est-à-dire qu'il y a un match et pas match.
Il y a match et match.
J'ai vu Zverev contre Bonzi, il n'y a pas eu match. Je te parle de match, un petit match.
Eh ben, on suivra ça avec toi, mon cher Eric, parce qu'on a besoin de voir des Français qui brillent. Tu m'avais promis un Français en deuxième semaine.
Ah bon, bah là, non, mais attends, malheureusement, il y a eu Arthur Fils.
T'as toujours des excuses.
Ça a mis mes plans. Moi, je suis déprimé là depuis hier. Hein, vous le savez, quoi.
Ouais, je comprends. Déprimé. Les supporters français sont déprimés également. De toute façon, on suit ça avec toi. On revient au foot et on commence avec la vie de Walid.
Les meilleurs joueurs du monde à chaque poste et faire le comparo avec beaucoup de sélections.
Walid,
c'est quoi le problème sur le jingle?
Comment?
C'est quoi le problème avec le jingle là?
Comparo.
Ouais.
Comparo.
Et alors faire le comparo, ça se dit pas?
Faire le comparo, non. Non, c'est la comparaison.
Oui, mais c'est un diminutif de
Alors, je suis pas sûr que ce diminutif-là soit validé.
Oui, c'est un diminutif de la comparaison, du comparatif.
Je pense que tu l'as inventé, ce...
Oui, c'est le comparo.
C'est dans ton dictionnaire.
Ah non, ça n'existe pas, faire le comparo?
Ah ben, je l'avais jamais entendu avant toi, mais peut-être que tu as lancé un truc, en tout cas.
Très bientôt, mon dico, vous inquiétez pas.
En fait, il y avait le petit Robert, maintenant, il y a le petit
Robert. On m'a compris, quoi, le comparo, vous m'avez compris.
Ben, on l'avait pas, mais maintenant, là, donc le comparo, bien sûr. Et tu vas nous parler donc de Guardiola, parce que cet après-midi, on a encore pleuré. Ça y est, 10 ans, c'est terminé, Manchester City. Il ne sera plus l'entraîneur du club la saison prochaine. Il va prendre un petit peu de temps pour lui. Toi, tu voulais te projeter sur la suite.
Oui, je vais me projeter. Alors, je vais pas faire le comparo avec Sir Alex Ferguson sur sa legacy en première année.
Tu parles anglais, dis donc.
Ouais, t'as vu, legacy, etc. Oui, legacy, qui veut dire legacy?
Légal?
Ouais, parce que je l'ai pas, moi. J'ai pas la traduction. Ouais, héritage. Voilà. Héritage. Merci beaucoup, Karine. Pour revenir plus sérieusement, je voulais parler de la suite de Guardiola, parce qu'elle m'excite énormément, encore plus que ce qu'il a réalisé, depuis le début de sa carrière, parce qu'il a fait des choses, gigantesques. Mais là, il y a une espèce d'excitation en moi sur la suite de la carrière de Pep Guardiola, avec beaucoup de perspectives. Et je voulais en discuter quand même avec vous et puis avec les auditeurs, parce que voilà, il a fait des choses extraordinaires en club. On va pas refaire sa carrière, mais bon, le Barça, le Bayern, Manchester City, 10 ans à Manchester City, une legacy énorme. Il a révolutionné le football anglais en faisant en plus des bébés, parce que il va laisser une première ligue avec Maresca, sûrement coach de Manchester City qui était son adjoint, et Arteta à Arsenal qui était aussi son adjoint, Kompany au Bayern Munich, si on va un peu plus loin, qui était son joueur à Manchester City.
Chelsea, Xabi Alonso à Chelsea, qui était aussi son joueur au Bayern Munich. Donc l'héritage est dingue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est toutes ces questions, moi, qui m'excitent du côté de Guardiola, parce que entre le football de sélection, mais politiquement, il peut pas prendre l'Espagne, alors qu'il y avait peut-être une affiliation plutôt logique avec l'Espagne, surtout avec la filière footballistique, et puis même des joueurs qui peuvent lui faire gagner, parce que la réalité, c'est que Guardiola, quand on voit un petit peu sa carrière en club, c'est il faut des moyens, et il faut des moyens, il faut des défis. Il aime bien créer, il aime bien vivre l'histoire du club, essayer d'emmener, que ce soit sur le jeu ou sur les résultats, plus loin le club quand il l'a pris. Et je me posais la question, quelles étaient les pistes, peut-être aller chercher un club italien qui lui manque, parce qu'il a joué à la Roma, notamment il a joué à Brescia aussi. Bon, Brescia, je suis pas sûr qu'il aille à Brescia, mais
la Roma c'est pas assez bien
sûr,
pour lui. Non,
bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui l'attendent sur un projet un peu plus petit en termes de dimension, pour voir ce qu'il pourrait faire, parce qu'il a été tellement grandiose.
Mais tu crois
dans
qu'il
des gros
prendrait
projets.
Ce risque?
Non, mais ça fait partie de l'excitation. Est-ce qu'il changerait son fusil d'épaule sur une fin de carrière? Donc l'AS Roma ou l'AC Milan, un gros club italien qu'il n'a pas fait, pour essayer de continuer à remplir l'armoire à trophées, surtout que la Roma et l'AC Milan, l'AC Milan n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2007, que la Roma l'a jamais gagné. Donc il y a un vrai truc, ou même sur le Scudetto, sur essayer d'aller gagner une série pour l'AS Roma. Je regardais un petit peu un retour au Barça dans un an ou deux, s'ils se reposent après Flick, s'ils n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions, faire gagner la Ligue des Champions à Yamal et Pedri et toute la clique, ce serait un immense défi. Mais en même temps, il pourrait aussi connaître sa légende, parce que son livre est tellement radieux et tellement parfait qu'il pourrait se mettre en danger, aller chercher un nouveau riche. Le Paris FC dans 2-3 ans peut-être, j'y pensais à ça. Je me disais, si demain le PFC, parce que je crois que Monsieur Arnaud avait dit Jürgen Klopp, qu'il est dans la maison, mais
c'est vrai qu'il a pas pensé.
Et après il y a le football de sélection, parce que en Angleterre il ira pas à Manchester United, je le vois pas aller à Liverpool. En Espagne il ira pas au Real Madrid ni à l'Atlético par rapport au football proposé. Il y a les sélections, et je me disais on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite par rapport au pognon que ça peut dégager, mais je suis pas sûr que Guardiola y aille en termes de défis sportifs. Mais il y a une prochaine Coupe du Monde, il y a l'Argentine post Scaloni, je pensais peut-être à l'Italie, mais je trouve que le défi est beaucoup trop grand, avec un réservoir qui est quand même maigre,
très
réduit. Bon, l'Espagne politiquement apparemment c'est impossible, le Portugal, mais Portugal, vu le côté un peu rival du côté de l'Espagne, ça peut être aussi compliqué. Je pensais aussi au Maroc, parce qu'il y a un défi immense, il y a une proximité avec l'Espagne par rapport à sur le côté géographique, il y a une Coupe du Monde 2030, et il y a des moyens, il y a des gros moyens au Maroc, et le Maroc vient de faire demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, tout ça là, ça m'intéresse, et je sais pas où est-ce qu'il va aller et dans quel défi, et ça m'excite tout autant de voir si en fait Guardiola va devenir un entraîneur moyen ou un entraîneur qui va se perdre ou qui va repartir encore une fois pour aller encore décrocher quelque chose de magnifique sur la suite de sa carrière.
Alors on rappelle que cet après-midi, pour la dernière à l'Etihad Stadium, il y a eu une défaite de 2-1, mais c'était anecdotique face à Aston Villa. C'était ses adieux après 10 ans. Il a dit que pour l'instant il allait devenir ambassadeur du City Group, parce qu'on rappelle que le City Group a des clubs un petit peu partout dans
club,
le monde
en fait.
Voilà, comme oui. Klopp,
ouais,
et qu'il allait prendre un petit peu du temps pour son papa qui est très âgé, etc., pour faire des choses qu'il n'a pas pu faire pendant 10 ans. Mais Jennifer Alton, où est-ce que vous...
J'ai oublié les Pays-Bas aussi, l'affiliation Cruyff... Non, mais toutes les sélections ont quelque chose avec Guardiola, et je me dis quel projet... où est-ce qu'il va aller, dans quel projet?
Où est-ce que vous aimeriez le voir, vous, Pep Guardiola, quand il aura décidé de sortir de sa retraite? Parce que là, ambassadeur,
moi,
c'est un faux job.
Moi, j'aimerais le voir sur un nouveau projet, mais qui est un projet global, c'est-à-dire sur un rachat de club, par exemple, par un nouvel investisseur, où il y aurait tout à rebâtir, de la formation jusqu'à l'équipe première, avec une équipe de recrutement nouvelle. Et parce que je pense que, voilà, en termes de club, il a pratiquement tout gagné et fait tout ce qu'il avait à faire. Là, à mon avis, psychologiquement, il a aussi besoin de prendre du temps pour couper quand on sait qu'on a été assis au niveau pendant tant d'années. Mais moi, c'est ça qui me plairait, en fait. C'est de le voir dans un projet qui, entre guillemets, n'existe pas encore.
Bah, moi, pour l'instant, j'ai un programme. Il va se reposer, il va faire du golf, il va voyager pour son...
Il joue très bien au golf.
Ah ouais?
Tu le sais, toi, t'as joué avec lui?
Ah ouais? Mais Alain Bogossian, ouais, est chaque année invité à son événement, parce qu'il organise une compétition, okay, de golf. Ouais. Et donc, il s'entoure des meilleurs, hein, évidemment. Ouais. Et donc, il joue très bien au golf.
Ok.
Et il fait souvent équipe, notamment, donc, avec Alain Bogossian. S'il nous écoute, on embrasse.
Il a un bon swing, ça veut dire.
Le champion du monde de 98. Bah, écoute, oui, il a un bon niveau. Voilà.
Okay, bah, s'il arrive au trou 18, c'est déjà une indication.
Mais il va sûrement le voir sur les prochaines semaines.
Il se voit chaque année, je te dis. Il a sa propre compétition.
Ok.
Il a son trophée.
On peut le voir à Saint-Quentin dans pas longtemps, dans 78.
Alors, c'est plus en Espagne, normalement, qu'il fait.
Ouais, il joue beaucoup de gens, parce que moi, j'aimerais bien le rencontrer.
Alors il fait la tournée de tous les plus beaux
tu vas les griller, Karine. Parce que je vais y aller, moi, c'est que je suis un angoisseur.
Mais vas-y, écoute, il joue avec Shevchenko.
Le casting, il est pas mal.
Il joue avec Andrei Shevchenko très souvent quand il y a des événements. Et après, il y a aussi des grandes stars qui sont pas forcément des footballeurs mais qui jouent très bien au golf, tu vois.
Comme
par exemple, il y a Alain Prost parfois, okay, il y a aussi Michael Jordan qui joue au golf.
Donc ça va, Bogossian, il est bien entouré, quoi.
Alain Bogossian est quand même un des footballeurs qui joue le mieux au golf. Donc les gens sont toujours contents de le prendre dans son équipe.
En fait, c'est le gars dans la cour d'école et tout.
Alain Bogossian a même entraîné les équipes de jeunes de golf. Il entraînait Alexandre Lévy.
Ah ouais, c'est Tiger Woods, quoi, Bogossian, en fait.
Non. C'est parce que j'ai dit, mais il avait un très très bon niveau.
Ok, très bien. Voilà.
Mais non, mais pour revenir sur Guardiola, donc il va se reposer, mais par contre, moi j'ai une vision, j'ai un programme, c'est 2030, c'est la Coupe du Monde du centenaire. Le football de sélection a besoin de Pep Guardiola, parce que pour moi, l'étape de football de club elle est terminée. Il a détruit le football, pour reprendre ses termes, il a détruit le football de club. Maintenant, pour moi, la prochaine étape...
Il l'a détruit, c'est-à-dire qu'il l'a assommé.
Oui, il l'a assommé.
T'as raison.
Il l'a assommé. Ouais, mais maintenant,
il a fait du mal.
Mais maintenant, moi, je suis un romantique. Et pour moi, le football de section, il n'y a rien de plus beau. Moi, on a besoin de voir un peu.
Mais où ça?
Mais après ça, il peut voyager, il peut choisir la sélection qu'il veut. Il y a sûrement des postes qui vont se libérer si Pep Guardiola il est là. Moi, j'ai besoin de voir Pep Guardiola, Coupe du Monde, le centenaire. Avec un Pep Guardiola.
Mais moi, j'ai envie de voir la grosse explication des gros coachs. Parce que tu vois, Klopp qui boit des canettes de Red Bull toute l'année, là, moi, ça me...
Oui, on peut fictif.
Va, voilà, ça me va pas du tout. Là, tu me dis que Guardiola, il va être là, City Group, etc. Ça me va pas du tout. Moi, je veux que Klopp retrouve une sélection, que Guardiola retrouve une sélection, Zidane. Après, t'as Carlo Ancelotti avec le Brésil, Thomas Tuchel avec l'Angleterre, Nagelsmann avec l'Allemagne. On a une grosse explication de gros coach.
Tu vois, là, le football de sélection nous raconte une histoire.
Ah oui, Marcelo Bielsa avec l'Uruguay.
Il va partir.
Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve qu'il y a quand même un essor. Il y a quelque chose là. Il y a des entraîneurs iconiques dans des grosses sélections. Et nous, on a commencé notre football avec ce football de sélection très prenant, voire même au-dessus du football de club dans les années 2000. Dans les débuts des années 2000. Non, pour moi, ça a quand même globalement changé. Même si Elton veut se faire une raison.
Je me fais pas une raison.
En tout cas, sur les dernières années, on a vu qu'il y avait, par rapport à notre football quand on était petit, factuellement, moi, je trouve qu'il y avait un décalage. Mais retrouver ça là avec, et notamment dû au coach, hein, parce que pour moi, les meilleurs coachs n'étaient pas dans le football de sélection et étaient dans le football de club. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une migration, ça bouge du côté du football de sélection. Et Guardiola, on doit faire partie.
Parce que c'est un renouvellement de génération et il franchirait le pas que son père footballistique, Cruyff, n'a jamais franchi, c'est-à-dire le passage en sélection. C'est vrai qu'on aurait voulu que Cruyff soit le sélectionneur des Pays-Bas, ça n'a pas été possible. Mais Guardiola, pour moi, ça doit être un passage incontournable dans le football de sélection.
Pour toi, ton top 3 vœux de...
Ah, mais clairement.
Non, mais non, les sélections où tu le vois le plus.
Alors moi, je me dis, Thomas Tuchel, ça va pas durer éternellement. Ouais. Donc moi, je te dis l'Angleterre.
De toute façon, si la Coupe du Monde est ratée pour l'Angleterre, il prend la porte directe.
Mais si Tuchel gagne la Coupe du Monde, c'est mort. Parce qu'en termes de défi, là, en fait, ça sert à rien de passer après Tuchel. Ouais. C'est comme le PSG, passer après Luis Enrique, ça a pas d'intérêt. En fait.
Angleterre, Italie, Brésil, en fonction de ce qui va se passer.
Non, Italie, je le vois pas en Italie.
Bah, si, Italie, pourquoi pas.
Mais non, Italie, c'est trop compliqué en Italie.
trop compliqué.
Il y a Deschamps qui est attendu.
Oui, non, mais tu voulais un défi compliqué justement pour Pep Guardiola.
Non, il faut un juste milieu. Il faut un espèce de juste milieu.
Juste milieu.
Il faut pas un défi trop compliqué non plus. Il faut quelque chose de. Attends, t'as vu l'Italie, tu joues avec des joueurs devant, c'est très compliqué.
Champion d'Europe en 2021.
Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Bon, en tout cas, Guardiola vous donne rendez-vous pour son Trophy Legend. Legend Trophy, ça s'appelle comme ça. C'est au mois de juin. Donc là, c'est dans quelques jours. Bah, en Espagne, il le fait au pays, tu sais. C'est pour sa fondation notamment. L'an dernier, c'était le 3 juin 2025. Donc là, à mon avis, il est en train de préparer tout ça. Prenez la direction de l'Espagne, enfin Walid surtout.
Girona, j'ai l'adresse. C'est Girona.
J'arrive, Pep.
Tu pourras.
J'ai un très beau swing, Joseph.
Voilà. Ouais. Pour Shevchenko ou Guardiola, voilà. Tu prends
non, qui? Non, Shevchenko.
André, tu prends qui?
Je prends Pep.
Pep dans tous les cas.
Et Bogossian, parce que moi, je t'écoute toujours. Moi, je prends tes.
Excellent joueur de golf.
Si tu nous dis que c'est l'assassin à prendre.
Ah, exactement. Okay. Nous, on t'écoute, nous, Karine.
Ouais. Le problème, c'est qu'il y a énormément de joueurs de foot qui jouent au golf, ça vous le savez.
Bah, oui.
Mais après, il faut prendre le meilleur des joueurs de foot qui jouent au golf, et Bogo, il fait partie.
Ok, ok.
Mais ouais. Après, il n'a pas le niveau de Tiger Woods.
Oui,
c'est normal, voilà, c'est pas son métier.
Tiger Woods, c'est comme ça.
On l'imagine bien quand même.
C'est son métier de golf, Tiger.
Merci pour tes conseils.
Écoute, c'est avec plaisir. Donc, Pep vous donne rendez-vous pour son tournoi Legend Trophy. Vous pourrez évidemment aller le voir. Dans quelques instants, Génération After continue. On va parler de la Première Ligue et puis on parlera aussi en deuxième heure. J'adore ce débat. Ces grands joueurs qui vous ont procuré aucune émotion. Il y a des noms qui vont tomber. On vous attend également.
Il vient
également
d'où ce débat?
Alors, tu sais quoi? Hier, Kevin Diaz, quand Carvajal est sorti en pleurs, Bernabéu debout, tout le monde l'applaudissait, les chants du Real et tout, il m'a dit, ce type m'a jamais procuré une seule émotion. Et on s'est dit, tiens, très bonne idée, on va en faire un débat.
D'accord, ok.
Voilà, comme ça tu sais tout. Donc j'ai l'impression qu'hier soir tu nous as pas écouté.
Non, malheureusement j'étais un peu fatigué, j'étais un peu patraqué.
Ah, très bien.
J'ai dormi.
On est ensemble jusqu'à 22h, à tout de suite pour Génération After.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Karine Galli. 20h51 sur RMC, on est ensemble avec Elton Mokolo, avec Walid Acherchour, avec Jennifer Mandelievitch, avec vous sur le WhatsApp RMC également au 32-16 sur RMC. On parle de la dernière journée de Première Ligue, des pleurs, il y en a eu évidemment énormément, et des enseignements aussi. Le record de passes décisives a été battu, c'est Bruno Fernandes non qui il a 21 passes D pour lui en une saison. Il était co-recordman avec De Bruyne et Henry, et donc là il est seul sur le toit du monde. 21 passes D, messieurs, dames.
Exceptionnel.
Quelle carrière.
Ouais.
Non, mais c'est juste ça, exceptionnel.
Ah non, mais c'est exceptionnel. Qu'est-ce que je veux dire de plus que incroyable de mettre 21 passes D, et bravo aussi aux receveurs. Parce que il faut magnifier ces 21 passes décisives par des buts, par de l'efficacité. Mais il a été élu meilleur joueur de Première Ligue.
Et puis surtout, après la saison de Manchester United, qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau quand ils ont commencé avec le désastre Amorim, et heureusement que Carrick a redressé la barre, parce que il y a pas beaucoup de personnes qui auraient donné la saison de Manchester United comme elle se termine.
Par contre, je suis obligé de le dire, il y a une pointe de tristesse dans ce record.
Pourquoi?
Parce que on parle d'un record battu avec Manchester United. Attention, je vais pas me fâcher par rapport aux supporters de Liverpool. Manchester United, pour moi, c'est le plus grand club d'Angleterre, mais c'est un record qui est entre guillemets aussi historique qu'anonyme, parce que Manchester United n'est pas la principale référence de Première Ligue.
Oui, après, mais il finit sur le podium quand même, donc il y a du mieux.
Voilà, il y a un retour en Ligue des Champions, non, il y a une troisième place qui n'était pas donnée en début de saison.
Il y a une tristesse, parce que pour moi, j'ai l'impression et j'ai bien peur que ce record-là, en fait, dans 4-5 ans et même au-delà, il ne soit pas perçu comme un record.
Ouais. Bah ça restera une fiche de stats qui sera très importante et impressionnante pour un joueur.
Une fiche de stats.
Enfin, je pense que là. Oui, voilà, mais de toute façon, c'est ce qui fait les stats. De toute façon, la statistique.
Non, mais c'est pas couronné d'un autre accomplissement beaucoup plus collectif.
Oui, mais c'est déjà
couronné du fait qu'il ne coule pas complètement pendant la saison, alors que à la base,
c'est
cool.
Ils reviennent en Ligue des Champions, ils sont troisième devant Liverpool, devant Chelsea.
Quand tu regardes le début de saison, est-ce qu'on pensait ça? Pas du tout.
Il y avait de la flotte dans le bateau, il a contribué
Et tu vois, par exemple, on va faire un débat juste après. Par rapport aux légendes qui nous ont rien fait.
Oui.
Moi, tu sais, Bruno Fernandes, je suis pas un grand fan, moi, à la base.
D'accord. Est-ce que c'est une légende, la télé?
Non, mais légende ou pas légende, on va pas faire ce débat-là, mais je dis juste que je pense qu'il aura impacté son passage déjà à Manchester United.
Ça, c'est vrai.
Par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à la régularité, par rapport aux statistiques, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais il y aura. Voilà, je pense que dans dans des saisons compliquées de Manchester United. Tu te souviendras de Bruno Fernandes, qui individuellement était quand même très très fort. Mais moi, son comportement par moment, l'année dernière, moi, j'avais trouvé détestable sur le terrain, sur des cartons rouges. J'ai pas, avec le Portugal, souvent, je trouve qu'il passe à côté alors qu'on l'attend au très très haut niveau. Et ben là, tu vois, cette année, il fait une saison exceptionnelle, époustouflante. Vraiment, il est au sommet de son art. Et globalement, tu sais, parce que le côté légende qui nous ont rien fait, c'est on accepte, c'est la réalité, c'est factuel, ce sont des légendes, ce sont des joueurs extraordinaires. Mais c'est des joueurs qui on n'était pas fan ou Bruno Fernandes faisait partie de cela, mais cette année, je vais pas dire il m'a mis d'accord parce que je savais sa qualité, on sait ce qu'il a dans les crampons, mais il réalise une performance exceptionnelle.
21 passes décisives, donc seul recordman pour le Portugais. United qui finit sur le podium, c'est la première fois depuis la saison 2022-2023. On va parler de Tottenham parce qu'ils se sont maintenus, mission accomplie pour De Zerbi grâce à une victoire à l'arrache 1-0 face à Everton. C'est West Ham donc qui chute en championship après 15 ans dans l'élite, et les Spurs n'avaient plus gagné depuis 169 jours à domicile devant leur public. Et on accueille Shaïne, supporter des Spurs, avec nous au 32-16. Bonjour Shaïne.
Bonsoir à tous.
Salut Shaïne.
Shaïne, un scandale, effectivement une saison cataclysmique, mais le principal est là, c'est-à-dire repartir en Première Ligue et peut-être rebâtir quelque chose avec Roberto De Zerbi.
Oui, franchement, honnêtement, depuis quelques semaines et encore plus depuis l'arrivée de Zerbi, c'était vraiment le résultat qui primait, malheureusement, on va dire. Donc là, on va dire qu'on est soulagé.
Est-ce que pour toi, ça reste quand même scandaleux quand tu es Tottenham, que tu as un tel budget, que tu finis 17e au classement avec seulement deux petits points d'avance sur West Ham, où tu dis, bon, ben voilà, ça arrive?
Ah non, c'est totalement scandaleux, parce que même s'il y a eu des circonstances atténuantes, et il y en a eu plein, avec les blessures ou d'autres choses comme ça. Même avec les blessures, tu avais un effectif qui va te permettre d'être au moins dans la première partie de tableau, largement, voire même dans les places en Europe, quand tu vois qu'il y a des équipes comme Sunderland qui ont réussi avec des effectifs bien moindres à être aussi haut dans le classement. Donc non, c'est honteux, il n'y a aucune excuse à avoir, même si on est rassuré.
Tu as parlé de Sunderland qui va jouer la Ligue Europa pour la première fois de son histoire, et ça sera également le cas de Bournemouth. Donc bravo aux équipes qui bossent bien.
Extraordinaire, Régis Lepris, hein. De la Championship jusqu'à la Ligue Europa pour Sunderland, 5 ans, 3 ans après, c'est quand même extraordinaire.
Exceptionnel.
Ouais. Du haut niveau.
Ils l'ont fait, effectivement. Shaïne, qu'est-ce qu'on peut t'espérer pour la saison prochaine, quoi? Un retour en Ligue Europa, ça serait déjà bien?
Je ne parlerai même pas forcément d'Europe, mais juste retrouver un Tottenham qui est cohérent, qui redevient une équipe sérieuse en Première Ligue. Et après, l'Europe, si ça doit attendre l'année d'après, moi, ça ne me dérange pas, mais je veux revoir une équipe qui joue au foot, qui redevient sérieux, qui donne du plaisir à voir jouer. Et puis l'Europe, si ça vient, tant mieux. Et si on doit attendre un peu, si on doit aller en Europe comme cette année pour finir 17e, bah, je préfère qu'on prenne le temps de reconstruire le club et l'équipe.
Ok, ben on te souhaite le meilleur, Shaïne, merci. Les gars, par rapport à Roberto De Zerbi et Tottenham qui vont faire donc une saison pleine, qui va peut-être pouvoir choisir des joueurs, etc. Il parlait d'excitation par rapport à certains entraîneurs. Est-ce que vous avez hâte de voir ce que De Zerbi va pouvoir refaire en Première Ligue?
Oui, mais ça va au-delà de Roberto De Zerbi. Le plus important, c'est Tottenham et ce qu'ils vont faire la saison prochaine, parce qu'il y a un gros problème du côté de cette équipe, à savoir que cette 17e place, ce n'est pas un épiphénomène. La saison dernière, tu as également terminé 17e. Aujourd'hui, t'es obligé d'avoir un constat qui est implacable. T'es déclassé en ce qui concerne la Première Ligue, et t'as beaucoup plus la réalité d'une équipe, ou plutôt d'un club, qui se bat pour le maintien. Parce que s'il y a une
qualité, qui n'est pas habitué.
Oui, mais par la force des choses, ça fait 2 saisons de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une qualité qu'on ne peut pas enlever à la Première Ligue, c'est un championnat où tu ne peux pas faire l'imposteur. Ça veut dire quoi? Avoir des joueurs qui vont te maquiller des problèmes tout au long d'une saison. Tottenham, ça fait 2 saisons de suite que tu as terminé 17e. Aujourd'hui, tu dois tirer un constat global où en fait, le seul Roberto De Zerbi ne va pas suffire. Si tu penses qu'avec le seul Roberto De Zerbi, je vais faire une bascule dans la Première Ligue, et ben c'est là où tu vas avoir de gros problèmes, et tu vas encore te battre pour le maintien, parce que il y a des clubs qui travaillent. On a parlé de Bournemouth, on a parlé de Sunderland qui sont arrivés en Europe. Cette saison, on a Chelsea, Newcastle et Tottenham qui étaient en Ligue des Champions, étaient même en huitième de finale de Ligue des Champions, ces trois clubs ne seront pas en Europe la saison prochaine. Il y a un renouvellement qui est permanent du côté de la Première Ligue et il y a même un déclassement qui peut être violent pour ces clubs comme Tottenham.
On en reparlera effectivement un petit peu plus tard dans l'émission de Chelsea. Le raté total, ils étaient huitième avant cette journée, finissent dixième et donc pas de Coupe d'Europe pour Xabi Alonso. Dans quelques instants, cette question, ces grands joueurs qui ne nous procurent aucune émotion, eh bien il y en a beaucoup, ça va faire débat. Venez au 32-16 sur RMC pour nous donner vos noms et pour nous expliquer pourquoi ces joueurs ne vous ont absolument pas émoustillé, fait pleurer de joie ou de tristesse. On est ensemble jusqu'à 22h dans Génération After. A tout de suite.
Génération After.